VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 18h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. À quelques jours de la fin de son mandat, le président Barack Obama joue son va-tout pour sauver son programme de santé, connu sous le nom d'Obamacare, que les républicains cherchent à abroger. Le chef de l'exécutif s'est rendu aujourd'hui au Congrès pour rencontrer les parlementaires démocrates afin de définir avec eux une stratégie pour barrer la route aux tentatives de la majorité républicaine dans les deux chambres. Les deux camps fourbissent donc leurs armes. Abdourahman Dia.
Les conservateurs qui contrôlent les deux chambres du Parlement n'ont pas perdu du temps pour déclencher la procédure qui pourrait aboutir à l'annulation du programme de santé globale, l'une des réalisations phares de l'administration Obama. Mais certains sénateurs républicains, comme John McCain, ont mis en garde leurs collègues contre une précipitation dans la mise en œuvre, surtout en l'absence d'un programme qui remplacerait Obamacare, car des millions d'Américains pourraient se retrouver sans assurance. Donc le président sortant et les démocrates pourraient même avoir des alliés au sein de la famille républicaine. Mais Donald Trump et la direction du parti républicain n'ont jamais caché leur intention de s'attaquer à Obamacare. Le président élu a, dans un tweet, demandé à ses camarades républicains de ne pas baisser la garde face à la pression des démocrates. Alors que Barack Obama rencontrait les élus démocrates, Mike Pence, le prochain vice-président, s'est de son côté réuni avec les républicains au Capitole, le siège du Congrès, pour discuter de la meilleure stratégie pour enterrer Obamacare. Il a déclaré que l'objectif, c'est de le remplacer par un système basé sur le marché de l'offre et de la demande. Une année 2017 qui démarre déjà dans la confrontation à Washington, en attendant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Afrique maintenant, en Gambie, atmosphère de peur dans le pays. Le chef de la commission électorale nationale a fui à l'étranger. Il avait proclamé la victoire de l'opposant Adama Barrow face au président sortant Yahya Jammeh à la présidentielle de décembre et aurait reçu des menaces. Pendant ce temps, les services de renseignement sont à l'affût des membres de l'opposition, Salwa Jafari.
Alors que le pays est toujours en proie à l'incertitude, Aliou Momar Ndiaye a quitté la Gambie pour le Sénégal selon des membres de sa famille.
I hereby declare Adama Barrow duly elected to serve as president of the Republic of the Gambia.
C'était lui qui, à la surprise générale, avait le 2 décembre dernier proclamé la victoire d'Adama Barrow. Momar Ndiaye avait jusque-là été considéré comme un homme de Jammeh. Les autorités sénégalaises n'ont pas commenté sur sa présence sur leur territoire. Pendant ce temps, au moins 5 sympathisants de l'opposition ont été brièvement détenus par les services du renseignement pour avoir porté ou vendu des t-shirts prônant un changement de régime. La Gambie est en proie à une crise née de l'élection présidentielle du 1er décembre. Le scrutin a été officiellement remporté par l'opposant Adama Barrow face à Yahya Jammeh, au pouvoir depuis plus de 22 ans, qui conteste sa défaite après l'avoir dans un premier temps reconnu.
Guinée équatoriale, la justice française a accepté ce mercredi de reporter en juin le procès à Paris de Théodorine Obiang, fils du président de Guinée équatoriale et vice-président de son pays, accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine considérable. Les détails avec Tatiana Mosso.
Le premier procès dans l'affaire des biens mal acquis se tiendra du 19 juin au 6 juillet. 9 audiences sont prévues devant le tribunal correctionnel de Paris. Théodorin Obiang était absent lundi à l'ouverture des débats, mais ses avocats ont demandé le renvoi du procès. Promu fin juin vice-président par son père Théodoro Obiang Nguema, le prévenu âgé de 47 ans est poursuivi pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il encourt jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et une amende qui pourrait atteindre quelques 50 millions d'euros, mais conteste les infractions qui lui sont reprochées. Saisi par la Guinée équatoriale qui conteste les poursuites françaises contre son vice-président, la Cour internationale de justice a rendu le 7 décembre dernier une ordonnance à l'issue de laquelle la France doit assurer, pour l'instant, l'inviolabilité d'un luxueux immeuble saisi par la justice française. Malabo présente cet immeuble dans l'un des quartiers les plus huppés de Paris comme des locaux diplomatiques. Au terme de l'instruction, les juges ont estimé que le patrimoine de Théodorin Obiang, évalué à plus d'une centaine de millions d'euros, ne pouvait avoir été financé par les seuls revenus officiels, mais était issu des détournements de fonds publics.
En Centrafrique, deux casques bleus marocains de la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, tués et deux autres grièvement blessés hier dans l'est du pays. Leur convoi a été attaqué par des hommes armés non identifiés. Le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
L'attaque a eu lieu hier mardi entre Zemio et Mboki, un axe sur lequel opèrent régulièrement des éléments de l'armée de résistance du Seigneur et des coupeurs de route. Les soldats onusiens ont été surpris par des tirs des assaillants alors qu'ils se rendaient à Obo, la grande ville du Ombomou, pour escorter des véhicules de ravitaillement de la MINUSCA. On ignore encore les auteurs de cette attaque, moins encore les raisons. À Bangui, la MINUSCA condamne avec fermeté cette agression qu'elle considère comme un crime. Elle promet par ailleurs de traquer les responsables. Ikavi Betanou, porte-parole intérimaire de l'institution.
La MINUSCA condamne dans les termes les plus forts ce nouvel acte ignoble et injustifié. Et rappelle que porter atteinte à la vie d'un casque bleu peut être considéré comme un crime de guerre et passible de poursuites judiciaires. Tout sera mis en œuvre pour traquer et mettre hors d'état des murs les auteurs de ces crimes afin qu'ils soient traduits en justice.
Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, moins d'une semaine après la signature de l'accord de sortie de crise, à la fin des discussions entre acteurs politiques congolais sous les auspices de l'Église catholique, la majorité présidentielle qui a signé cet accord sous réserve remet déjà en cause plusieurs de ses passages. Robin Minaku, le secrétaire général de la plateforme politique du président Joseph Kabila, affirme que toutes les dispositions de cet accord qui ne respectent pas la Constitution et les lois congolaises sont nulles et non avenues. On l'écoute au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La majorité présidentielle a effectivement signé l'accord sous réserve et est satisfait de cet accord. La majorité présidentielle a émis une réserve essentielle concernant l'inclusivité. Suite à cette réserve, cela signifie clairement que lors des pourparlers pour élaborer l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va veiller à ce que toutes les composantes politiques de la République, notamment l'opposition et la société civile qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine et qui n'ont pas signé cet accord, puissent être intégrées dans la suite du processus. Nous y verrons. L'accord signé est une étape réussie, mais qui a une autre étape, et cette étape concerne l'arrangement particulier. Enfin, au-delà de tout cela, avant, pendant et après l'élaboration de l'arrangement particulier, la majorité présidentielle va appliquer l'accord pour autant qu'il soit conforme à la Constitution. Toutes les dispositions de l'accord contraires à la Constitution de la République et aux lois de la République sont nuls et de nul effet.
Robin Minaku, secrétaire général de la plateforme politique du président Kabila. Au Burundi, le ministre de l'Intérieur Pascal Baranda-Guillé a radié définitivement la plus ancienne Ligue burundaise des droits de l'homme, ITK, de la liste des ONG locales. M. Baranda-Guillé accuse ITK de ternir l'image du pays et de semer la haine et la division au sein de la population. Des allégations rejetées par la présidente de la COSOM, la coalition de la société civile pour le monitoring électoral, Justine Nkurunziza.
Personnellement, je trouve rien d'étonnant dans la décision qui a été prise par le gouvernement du Burundi, parce que la Ligue ITK est parmi les organisations qui dérangent. Parce que la Ligue ITK, depuis qu'elle avait même été suspendue, avait continué à recueillir les exactions, les violations des droits de l'homme sur terrain. Et ça énervait le gouvernement du Burundi parce qu'ils veulent tout faire en silence. Ils veulent continuer à violer les droits de l'homme, à tuer, à créer beaucoup de fausses communes à l'insu de tout le monde. Alors la Ligue ITK a beaucoup de présence sur terrain et les membres continuent à rapporter ces crimes. Bon, c'est pour ça que je trouve que c'est une réaction très normale pour moi, parce que le gouvernement a tendance à faire taire, comme il a fait taire les radios. Il continue à faire taire même les organisations de la société civile qui travaillent pour la défense des droits de l'homme.
Justine Nkurunziza, qui vit en exil à Ottawa, au Canada. Et pour terminer, crise migratoire, en Libye, plus de 80 migrants ont été secourus ce mercredi sur une plage de Tripoli, où ils avaient échoué en croyant être arrivés en Italie après 3 jours en mer, selon des rescapés et le Croissant-Rouge libyen. Ces immigrants, pour la plupart des Sénégalais, étaient montés à bord du bateau il y a 3 jours à Sabratha, une ville de l'ouest de la Libye située à 70 km de la capitale libyenne. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.